vous nous écoutez peut-être de votre mobile, soit dans un train, soit dans une gare, eh bien, vous le savez, les deux plus grandes gares de Suisse romande sont en travaux. Tant à Genève, où le hall central a enfin été inauguré fin avril, qu'à Lausanne, eh bien, on investit des millions pour améliorer les fonctionnalités du lieu, accueillir des trains plus grands, plus performants et plus nombreux. On repense aussi les halls d'entrée, les magasins, les sous-voies, car le nombre de voyageurs devrait exploser. Et avant de monter dans le train, eh bien, tous ces voyageurs sont des piétons. Et vous vous intéressez à eux, Michael Temans, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint du centre de transport de l'EPFL. Votre laboratoire étudie notamment ce qu'on appelle des flux piétonniers. Alors avant d'en parler en détail, à quoi ça sert de modéliser finalement le trajet d'un piéton ?
Alors, la motivation principale est d'être capable de comprendre ce phénomène complexe, donc de foule de piétons qui se déplacent dans un environnement qui peut être une gare, un aéroport, mais aussi un stade de foot ou un festival musical. Il y a trois objectifs à cela. Il y a un premier objectif de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut qu'une infrastructure comme une gare soit à même d'évacuer rapidement tous ces flux de personnes en cas de problème. Il y a un objectif qui est plus aussi lié au confort ou à la qualité de service que peut offrir un opérateur ferroviaire, parce que on souhaite finalement que l'expérience de voyageur se déroule bien avant même de monter dans le train, parce que les gens n'habitent pas dans les gares, donc il faut qu'ils puissent accéder à la gare et aussi naviguer au sein de la gare dans des conditions de confort et de qualité de service qui soient bonnes et acceptables. Et enfin, il y a un réel objectif opérationnel. Comme vous l'avez dit, on s'attend à un doublement de la capacité entre Lausanne et Genève d'ici 2030, en tout cas c'est les scénarios qu'on a dû évaluer, doublement de la capacité dans les trains, mais aussi doublement du nombre de voyageurs qui vont déambuler dans les différentes zones de la gare de Lausanne, et donc il faut être capable que l'infrastructure de demain puisse gérer efficacement ces gens pour assurer un temps de correspondance de 4 minutes et puis finalement pour assurer le bon fonctionnement global du système ferroviaire et la tenue de l'horaire. Donc il y a vraiment trois grands objectifs.
Alors pour modéliser tout ça, notamment, les gens ne le savent peut-être pas, mais vous avez des caméras qui tournent dans la gare de Lausanne déjà depuis 2011. Alors on rassure nos auditeurs, vous ne gardez pas les images, mais seulement les mouvements des gens qui sont dans la gare. Alors dites-nous, finalement, on ne va pas tous entrer dans la gare puis aller directement prendre notre train ?
Alors non, pas forcément. Donc on a effectivement des caméras qu'on utilise plus comme des capteurs, donc pour effectivement extraire en temps réel les trajectoires des différentes personnes qui déambulent dans les passages sous-voie ou sur un des quais qui a aussi été étudié. Mais effectivement, on a aussi réalisé des études socio-géographiques qui montrent qu'il y a différentes typologies d'utilisateurs. Il y a des gens qui viennent à la gare pour prendre un train, ça paraît le plus évident. Il y a des gens qui viennent à la gare pour profiter des autres services de mobilité qui sont offerts, mobility car sharing, les vélos en autopartage ou les bus ou le métro. Il y a des gens qui utilisent la gare, comme le disent nos sociologues, comme une agrafe urbaine, donc finalement comme un lieu de passage qui permet d'aller d'une zone de la ville à une autre zone, donc des gens qui traversent tout simplement un des passages sous voie pour traverser la gare de part en part. Et puis il y a aussi des fonctions de séjour, dites de séjour, donc des gens qui viennent pour de la socialisation, pour prendre un verre dans un des cafés aux abords de la gare ou dans la zone de la gare, ou qui viennent simplement profiter des commerces qui sont aussi situés aux abords de la gare. Donc il y a différentes typologies de personnes et il y a différents types de comportements suivant qu'on parle de la journée ou de la nuit, d'une semaine ou du week-end, d'une heure de pointe ou d'une heure creuse. Donc c'est assez complexe et assez hétérogène.
On le voit, c'est assez compliqué. Michael Temans, dans un premier rapport déjà rendu en 2013, vous avez identifié par exemple que l'un des sous-voies lausannois était déjà utilisé quasiment à son maximum. C'est le sous-voie côté Genève, le sous-voie côté Ouest. Comme ça, si jamais vous nous écoutez et vous voulez être un peu plus tranquille, bien prenez peut-être l'autre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 120 000 personnes passent chaque jour par la gare de Lausanne. On attend le double dans 10 ans. Alors en 2030, il y aura 3 sous-voies, c'est ça que prévoient les travaux. Mais comment faire finalement pour que les passagers se répartissent mieux ? C'est une problématique, j'imagine, que vous étudiez, parce qu'avoir 3 sous-voies, c'est une chose, mais il faut que les gens se répartissent pour que la circulation aille mieux.
Tout à fait, donc, et ça nécessite d'avoir un concept global d'accessibilité ville-gare qui soit bon, d'avoir une bonne visibilité de l'infrastructure, parce que si vous avez un passage sous-voie qui est peu visible, les gens auront peu tendance à l'utiliser. Donc il faut vraiment avoir une réflexion globale sur la stratégie piétonne et de s'assurer finalement que le réseau piéton associé à la gare soit le plus visible et le plus lisible possible en termes de signalétique pour que les flux puissent se propager de manière efficace. Aujourd'hui, on a par exemple un problème, c'est que dans le meilleur des cas, le passage est est utilisé à hauteur de 40%, ce qui veut dire qu'il absorbe 40% des passagers au maximum et le passage sous-voie ouest, donc côté Genève, absorbe au minimum 60%. Et en fait, c'est tout à fait simple, c'est une question de visibilité, c'est que l'accès projet côté est de la gare est moins visible que la partie, que l'entrée principale de la gare où il y a le hall central.
Tout est étudié hein, dans votre rapport, la signalétique ou comment les gens arrivent ou repartent de la gare aussi, pas seulement comment ils évoluent à l'intérieur. Par exemple, pour ceux qui connaissent le haut de la gare de Lausanne, vous avez noté des ralentissements parce qu'il y a ces machines à billets qui sont tout de suite à l'entrée, ou encore le fait que le panneau qui indique l'arrivée des trains se trouve sur le côté et que les gens donc freinent ou s'arrêtent pour lire le panneau. Vous avez recommandé en 2030 de changer tout ça finalement pour qu'il y ait une meilleure circulation, on va dire. C'est un peu comme sur la route, c'est pour éviter les bouchons.
Tout à fait, c'est exactement ça. Donc le hall d'entrée aujourd'hui, il est un peu engorgé parce qu'à nouveau, c'est l'entrée au niveau du côté nord qui est la plus visible, donc qui draine déjà beaucoup de personnes. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui entrent dans la gare en surface, en traversant d'abord les passages pour piétons et donc en ayant à cohabiter avec les flux de voitures, alors qu'il y a déjà le passage sous voie ouest. Donc c'est un peu une zone qui est très attractive et qui est aujourd'hui, dans les conditions actuelles de la gare, plus attractive que les autres points d'entrée. Et en plus, on a des attracteurs, donc les machines à billets et un tableau d'affichage des horaires qui est peut-être un peu trop en amont de l'entrée, donc un peu trop proche de l'entrée, ce qui crée un peu une saturation dès les premiers pas au sein du hall d'entrée. Donc oui, on a effectivement formulé des recommandations pour améliorer tout ça.
Alors, on précise que pour Lausanne, les travaux commenceront normalement en 2017. Michael Temans, vous avez utilisé les caméras, on en a parlé, mais vous avez aussi fait des observations. Vos chercheurs sont allés sur place pour voir comment les personnes évoluent. Et puis, il y a des interviews également. Donc, est-ce qu'on peut dégager un voyageur type ? Est-ce qu'il y a un voyageur type de la gare de Lausanne ?
Non, c'est assez difficile parce que, comme je le disais, il y a déjà des gens qui viennent pour des fonctions de transit, des gens qui viennent pour des fonctions de séjour. Il faut aussi distinguer quelqu'un qui voyage seul de quelqu'un qui voyage accompagné, avec des enfants, avec des bagages ou des gens qui se déplacent en groupe. Maintenant, c'est vrai que c'est très important. Il y a eu un travail de terrain pendant 9 mois, donc avec nos sociologues et nos anthropologues. Donc, il n'y a pas uniquement un travail de modélisation mathématique de flux. On parle aussi de personnes. Et donc, c'est important de comprendre les stratégies piétonnières, de comprendre comment les gens décident de s'orienter au sein de la gare, comment est-ce que les gens décident d'accéder à la gare pour essayer de construire un peu une sorte de carte mentale. Une carte mentale, c'est la représentation que les gens se font de la gare et finalement de l'infrastructure piétonnière ou des itinéraires piétonniers autour de la gare, pour comprendre comment est-ce qu'ils vont s'orienter et sur quoi est-ce qu'on pourrait agir au niveau des nœuds d'inflexion, ou je dirais des carrefours de ce réseau piétonnier, pour mieux guider ces flux et pour mieux les gérer. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses. On a identifié certains types de personnes qui préfèrent utiliser les rampes par rapport aux escaliers. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en compte quand on fait des choix, je dirais, plus qualitatifs et pas uniquement quantitatifs en termes de largeur optimale d'un quai ou de largeur optimale d'un passage sous voie.
Une goutte puis deux tombent en trombe à l'averse et paraissent le pas des piétons en détresse. Une porte cochère pour abri de fortune. Il a froid, il renifle, il déteste l'automne. Une jeune femme le rejoint, elle est trempée jusqu'aux os. Elle le regarde en souriant, ils échangent quelques mots. Elle confie son prénom, il craignait qu'elle résiste. Il prie la météo pour que la pluie persiste. Les beaux jours reviennent, les beaux jours reviennent, les beaux jours reviennent, les beaux jours reviennent. Elle corrige ses cheveux, mais y a plus rien à faire. Elle s'était pomponnée, la pluie a tout mis en l'air. Maquillée comme un chef indien, ravissante pourtant. Les filles sont waterproof, c'est bien conçu franchement. D'autres passants égarés cherchent refuge mais renoncent. C'est une porte cachère, biplace par chance. Sa main frôle la sienne, ça n'a rien d'un hasard. Novembre, la pluie, le froid, le vent, le tonnerre. Les beaux jours reviennent, les beaux jours reviennent, les beaux jours reviennent, les beaux jours. Ils en restent là, son regard la questionne. S'il assure demain matin, elle aura chopé son rhume. Il croise ses doigts gelés, serrés dans ses poches. La pluie s'est arrêtée, leurs lèvres se rapprochent. Les gouttes se font plus rares, il en redoute l'éclaircie. Le soleil pourrait reprendre ce qu'apportait la pluie. Le soleil revient. Le soleil revient. Le soleil revient. Le soleil revient.
Les beaux jours reviennent, Juliette Gréco qui chante les paroles de Benabar en 2004. C'est tout à fait d'actualité avec la météo dehors. Michael Temans, on continue notre discussion sur les flux piétons. Lorsque vous avez étudié la gare de Lausanne, est-ce que vous avez remarqué des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout ?
Alors, des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout, non. Mais par contre, il y a des choses qu'on avait sous-estimées. C'est par exemple l'impact des attracteurs ou des magasins dans les passages sous voie. On s'est rendu compte avec nos travaux d'analyse des trajectoires que le fait d'avoir, par exemple, des points de vente dans le passage ouest, donc côté Genevois, fait que, en prenant un petit raccourci, c'est comme si on enlevait 2 mètres de la largeur du passage sous voie parce qu'on a 2 mètres qui sont pas vraiment utilisables parce qu'il y a des queues qui se forment près des caisses, il y a des gens qui s'arrêtent et dont la vitesse de déplacement est moins rapide que la vitesse de déplacement du flux pur de transit, donc la personne qui court pour aller chercher son train ou qui ne fait que passer d'une seule traite. Donc oui, on s'est rendu compte, on a vraiment quantifié l'impact de ces attracteurs. Il y a certains phénomènes qu'on avait un peu sous-estimés.
Et il y a encore autre chose, vous parlez des personnes qui se rassemblent. On ne se regroupe pas par hasard, hein. C'est ce que vous avez pu constater aussi dans vos travaux. Il y a inconsciemment des endroits qui sont plus propices à ce qu'on appelle dans vos études des « togethering », on se met ensemble. Ça aussi, vous pouvez l'étudier, mais c'est pour faire quoi ? C'est pour éviter qu'on ne se rassemble à des endroits qui sont pas propices, ou vous allez pouvoir même nous inciter à se rassembler à certains endroits prévus à cet effet ?
C'est un peu ça. Donc, si vous voulez, donc le togethering, donc le phénomène de socialisation, le fait que les gens se rencontrent à la gare, une rencontre infortune, mais aussi une rencontre planifiée où on souhaite se retrouver à la gare pour démarrer une journée de travail, c'est quelque chose de très bien parce que la gare est aussi un lieu de rencontre. Mais comme je le disais plus tôt, il faut vraiment trouver un habile équilibre entre les fonctions de transit de la gare qui doit littéralement permettre le transit efficace de voyageurs et les fonctions de séjour où les gens sont plutôt là pour discuter avec quelqu'un ou en groupe ou attendre dans la queue d'un magasin. Et donc il faudrait typiquement éviter que les gens se rassemblent au niveau des rampes parce qu'on a vu que c'est l'interaction entre les passages sous voie et les rampes qui pose le plus de problèmes. D'où l'idée de réfléchir aussi à une manière de positionner les attracteurs pour qu'il y ait une bonne complémentarité entre les gens qui veulent séjourner et les gens qui veulent transiter. Si je prends l'exemple des quais, ce qu'on aimerait idéalement, c'est que les flux se propagent sur toute la longueur des quais. Ce sera d'autant plus vrai demain quand les quais vont passer à 420 mètres. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'avec la structure actuelle, la position des bancs, mais aussi la position des rampes et des escaliers, la plupart des gens ont tendance à s'amasser directement au niveau des sorties, donc au bout de l'escalier ou au bout de l'escalator, ce qui pose des problèmes parce qu'il y a peu de gens qui sont aux extrémités des quais où ils auront plus facilement une place assise et donc on pourrait typiquement vouloir mettre des attracteurs plutôt situés aux extrémités des quais pour dégager les rampes et dégager les accès et finalement faciliter les montées et descentes des trains. Donc oui, c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut jouer, mais jouer dans le sens positif du terme pour finalement veiller à ce que l'infrastructure soit la mieux utilisée par les gens et que les gens bénéficient d'un degré de confort et de sécurité qui soit le plus grand possible.
Est-ce qu'avec votre modèle, maintenant que vous avez, est-ce qu'on peut l'imaginer comme une sorte de base informatique où on a des petites personnes qui bougent ? Et est-ce que vous pouvez, par exemple, tester, mettre un escalator à cet endroit-là, une rampe à cet endroit-là, et voir ce que ça donne dans votre modèle ? C'est comme ça qu'on peut faire les choix ?
Tout à fait. Donc c'est bien le but de la modélisation. Une fois qu'un modèle a été développé, validé sur des données réelles et qu'on a démontré qu'il reflétait la réalité de terrain avec une précision suffisante, on recourt ensuite à ce qu'on appelle de la simulation. Donc l'idée, c'est d'utiliser le modèle pour évaluer différents scénarios. Différents scénarios d'infrastructure, 2 passages sous voie, 3 passages sous voie, différentes tailles pour ces passages sous voie, mais aussi, par exemple, différentes hypothèses en matière de demande. Donc, on a été jusqu'à tester une augmentation de 150% du nombre de voyageurs, donc ce qui correspondrait à 2,5 fois plus de voyageurs que ce qu'on a observé aujourd'hui avec notre outil de diagnostic. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'évaluer tous ces scénarios pour pouvoir faire face, le cas échéant, à
une augmentation justement des passagers. Moi, j'ai l'impression que quand je me déplace à la gare, tout d'un coup, au dernier moment, j'ai quand même envie d'aller au kiosque ou au dernier moment, je vais faire quelque chose. J'ai pas l'impression d'être très précis et de savoir vraiment ce que je cherche forcément chaque fois. Est-ce que vos modèles, du coup, peuvent se tromper ?
Alors, il faut savoir qu'un modèle, par définition, c'est une représentation mathématique ou une simplification mathématique, si vous le souhaitez, d'un phénomène très complexe qui est ici essayer de comprendre comment 120 000 personnes déambulent dans une gare. Donc, par définition, il ne va pas capturer 100% de la complexité ni 100% de ce que nous avons dans la tête quand on décide d'aller à la gare de Lausanne. Maintenant, à nouveau, ce qui compte, c'est d'être capable d'avoir un outil qu'on peut utiliser, qui est malléable et avec lequel on peut évaluer des scénarios de manière quantitative. Donc on ne capture pas 100% des choses, mais on s'est assuré justement, grâce à ce laboratoire taille réelle, de pouvoir valider des modèles qui sont parfois très théoriques.
Avec ce modèle qu'on a maintenant de la gare de Lausanne, qui est une sorte de laboratoire à taille réelle, vous l'avez dit, est-ce qu'on peut l'appliquer à d'autres choses que la gare, à d'autres gares, peut-être en Suisse, où vous le disiez, à un stade de football ou une gare à l'étranger, ou est-ce qu'il y a trop de différences, on va dire, culturelles entre les différents pays ou les différents lieux?
Alors, on peut l'appliquer, et c'est le but aussi d'un modèle. C'est pas uniquement de simuler d'autres scénarios sur une même étude de cas, mais c'est aussi d'évaluer son potentiel de transposition. Mais il faut être prudent dans le sens où il n'y a pas un modèle de flux de piétons, comme il n'y a pas un seul modèle pour analyser les flux de trafic dans une ville. Donc il faut toujours faire très attention. Mais c'est vrai qu'ici, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, c'est de tester la version du modèle qu'on a développé sur Lausanne sur d'autres données, par exemple des données au Japon, où on a aussi des gares qui sont, enfin on a parmi les plus grandes gares du monde, pour voir quels sont les éléments génériques et les éléments qui sont transposables, quels sont les paramètres qu'il faudrait éventuellement recalibrer, etc. Mais il faut être prudent. C'est rare qu'on puisse reprendre un modèle tel quel de A à Z et l'appliquer dans un autre contexte, parce qu'à nouveau, on parle aussi de comportement, c'est-à-dire que la manière dont les flux vont se développer, vont se propager dans une gare, c'est pas uniquement une question de simulation physique, c'est aussi des décisions individuelles. C'est vous qui, quand vous êtes dans une foule, allez décider de dévier un petit peu à gauche, de dévier à droite, d'éviter une collision. Et donc, dès l'instant où on parle de comportement, et dès l'instant finalement où le système est une sorte d'agrégation de comportements de centaines et de milliers de personnes, il faut aussi prendre en compte des effets culturels. Et typiquement, au Japon, il y aura des choses qui seront très différentes de ce qu'on voit ici en Suisse ou même en Europe occidentale de manière plus générale.
Michael Temann, si vous connaissez grâce à ces études aussi bien finalement le comportement des piétons dans une gare, alors vous savez aussi un petit peu forcément quel est le meilleur endroit pour placer un magasin, un restaurant, un kiosque, peut-être dans le but de nous faire consommer davantage. Est-ce que vos données servent aussi au CFF pour commercialiser, rentabiliser les espaces ?
Alors, pour l'instant, pas, parce que les différents projets que nous menons avec le CFF se font avec la division infrastructure, dont le principal souci est d'offrir finalement une infrastructure gare qui permette de gérer avec efficacité et sécurité les flux. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre dans quelle mesure la localisation de ces attracteurs ou de ces points de vente influence les flux. Donc, on a une thèse de doctorat qui est en cours, où on essaye justement de modéliser les flux origine-destination, donc la manière dont les flux se distribuent spatialement dans l'espace de la gare, en fonction notamment de la localisation des magasins et aussi en fonction d'autres variables. Mais c'est vrai que la division immobilier des CFF pourrait être, elle, intéressée à se dire du coup, vu qu'on a une connaissance de la manière dont les flux se propagent, quelles sont les zones où il y a le plus de personnes qui partent pour éventuellement tenter de maximiser les revenus issus de ces magasins. Mais c'est pas du tout l'objet des recherches telles qu'elles sont développées aujourd'hui.
Merci beaucoup, en tout cas, Michael Temans, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du centre de transport à l'EPFL. On a mis en lien sur la page de l'émission plusieurs liens qui permettent de mieux connaître encore vos travaux. Merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite une très bonne journée.
Bonne journée à vous.